Pose ta tête.
Pose ta tête, l'émission qui laisse passer la lumière.
La lumière.
Pose ta tête, c'est l'émission
ta tête.
L'émission qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête.
Pose ta tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Pose ta tête et surtout bonne année.
Bonjour. Bonne année, bonne santé.
On espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez pris
pas
des...
trop mal aux cheveux?
Pas trop mal aux cheveux.
Est-ce que vous avez mangé trop de chocolat?
Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions?
Non.
Aucune?
Aucune.
Aucune, James?
J'ai pas besoin.
Décider d'en prendre?
j'ai pas besoin.
C'est une bonne résolution de décider de prendre des résolutions ou de les tenir.
Non, moi ça va, tout va bien, 1m90, blond, les yeux bleus, tout est cool pour moi. Quoi.
Et toi, Émilie?
Non, mais j'ai décidé d'arrêter d'en prendre, oui, des résolutions. C'est plus facile à tenir. Du coup, pour commencer la bonne année 2026, on a choisi de vous faire un petit best-of de l'année 2025, une petite rétrospective.
Tout à fait.
Déjà, on va commencer peut-être par remercier tous les auditeurs.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous. De vos sympathies, de vos messages.
De votre fidélité.
Ouais, merci beaucoup de votre soutien aussi,
voilà.
De vos petites blagues par mail.
Et restez à l'écoute surtout.
Chez nous. Alors du coup, Félix, c'est toi qui commences avec ta rubrique « Qu'est-ce qu'on bouge ?» Et du coup, toi, bah, tu ne peux pas trop nous faire une petite rediff puisque toi, le principe de ta rubrique, c'est de nous donner de l'actu.
Voilà, c'est l'actu qu'on pourra vous donner. Quelques événements à noter dans vos tablettes sur le Vendômois en janvier.
Ouais.
Je tiens à vous dire que toute l'année, vous pouvez, en vous rendant sur le site de l'Hectare, voir les multiples événements en lieu avec les spectacles de marionnettes et pièces de théâtre. Mmh. En avril, il y aura la Bourse Plante de l'association ALV, 11 rue des Écoles. En mai, le Festival de guitare à Vendôme. En juin, le Festival de Contempaga et Naveille. Et ainsi que Gare à la Rochette à Toré. Des événements aussi en lien avec Octobre Rose. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne année 2026.
Merci Félix. Est-ce que toi, il y a un événement en 2025 qui t'avait particulièrement marqué, auquel tu as participé?
Y a plein de choses. Il y a Handibox. Handibox, pour lequel notre cher ami et partenaire James a fait la découverte et participe actuellement.
Ouais.
Et ça, donc, c'est... en fait, ça m'avait marqué. Et aussi les événements sportifs. En lien avec le vélo, le cycle à Vendôme.
Ok.
Donc voilà.
Et ben du coup, on enchaîne avec la rubrique court-circuit et j'envoie le jingle.
Court-circuit. Le circuit court des artistes du Vendôme.
J'écris pour faire plaisir à beaucoup, pour m'amener le besoin. Ça, d'accord. Mais c'est la même chose. C'est ce que j'ai prévu à faire.
Court-circuit.
Alors, moi j'ai choisi de vous faire réécouter l'interview de Tania Viss, qui est une chanteuse, autrice, compositrice, et qui est en ce moment encore sur Paris avec des concerts de ci, de là, et qui sort un EP d'ailleurs, bientôt. Je vous conseille d'aller voir sur sa page Instagram. Et donc, c'est quelqu'un de très engagé et qui est très avec des valeurs féministes très fortes, et avec des chansons aussi très drôles, on se marre beaucoup. Et ses concerts sont assez joyeux, assez empreints de pas mal de sororité. Et de...
Ça correspond au texte qu'on fait.
Ouais, de belles valeurs. Donc du coup, voilà, moi j'ai choisi de vous faire réécouter Tania.
Bonjour Tania, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Bonjour, moi je m'appelle Tania Viss, je suis originaire du Loir-et-Cher. J'ai grandi du côté de Montoire-sur-le-Loir et j'ai fait mon lycée à Tours. Donc je suis un petit produit de la région centre. Je suis à Paris depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'exerce le métier de chanteuse et comédienne. Pendant le confinement, j'ai créé une chaîne sur TikTok. À la base, c'était pour me moquer du Covid-19 parce qu'il le méritait. Et finalement, ça s'est transformé petit à petit en parodie plus engagée sur l'actualité. À côté, j'ai aussi un spectacle pour enfants qui s'appelle Falabule, qui tourne beaucoup en Île-de-France. Et je suis aussi chanteuse, j'écris mes propres chansons, plutôt engagées et humoristiques. Depuis peu, finalement, toute seule. Et avant, j'avais un groupe qui s'appelle Lyric Square, mais qui s'est terminé pendant le confinement.
Peux-tu nous parler de ton engagement féministe, de la façon dont tu traites ce sujet dans tes chansons?
Pour parler de mon engagement féministe, je dirais que ça a d'abord été une nécessité pour moi. suite à une relation violente. Ça a été la façon que j'ai trouvée pour me reconstruire. Et j'ai trouvé dans la sororité une énorme force. Si j'en parle autant dans mes chansons, c'est que l'artistique, l'écriture, c'est très lié, chez moi en tout cas, à l'intime, à ce que je suis. Et sur scène, je parle de qui je suis, ce que je vis, ce que je ressens. Et forcément, comme toutes les femmes, en fait, ou toutes les femmes en tout cas, qui sont dans cette démarche de déconstruction par rapport à un modèle social patriarcal qui nous a été inculqué. J'ai besoin de parler de mes poils, j'ai besoin de parler de mon cycle menstruel, de mes SPM, les syndromes prémenstruels, de ma digestion, mes problèmes de digestion, de mon côlon. J'essaie de casser un peu les tabous, en fait, qui sont autour de la féminité, mais aussi tout simplement autour de tout le monde, parce que, par exemple, parler de digestion, c'est quelque chose dont on ne fait pas souvent, alors que finalement, on souffre presque toutes et tous de problèmes de digestion. J'essaie d'en parler sous un angle ironique, satirique. On va dire que ça pique, mais c'est pas agressif, ça ne mord pas. En général, ça se passe très bien. En concert, les gens rentrent facilement dans l'univers et souvent ne se sentent pas forcément heurtés par mes propos. Je pense que c'est une... Comment dire ? Le fait de se servir de l'humour aide beaucoup à faire passer certains messages sans agressivité. Et peut-être qu'ils passent peut-être plus facilement comme ça. Après, c'est pas toujours le cas. Par exemple, dans mes parodies en ligne sur les réseaux sociaux, où là, je fais face à un public beaucoup plus large, hein, parce que c'est pas des gens qui viennent me voir, qui se déplacent pour venir me voir. Là, je peux avoir des réactions beaucoup plus violentes, notamment avec des menaces de mort, des menaces de viol. C'est ça aussi la réalité des femmes sur les réseaux sociaux et la réalité des femmes qui s'engagent et qui parlent et qui ouvrent en fait leur bouche tout simplement. Il faut savoir que s'engager en tout cas de manière visible sur les réseaux, ça a aussi des conséquences et il faut être assez solide pour pouvoir encaisser ça et avoir un détachement aussi de tous ces commentaires de haters qui peuvent parfois toucher. Moi, j'avoue que je suis très bien entourée et c'est des choses dont je vais plutôt rigoler, qui ne me touchent pas forcément. Mais des fois, ça peut aller loin et ça peut aussi me toucher. Donc, il faut faire attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taire. Au contraire, il faut ouvrir grand sa bouche et déconstruire le plus de choses possible.
Quelle est ton actu pour 2025 ? Est-ce que tu as des projets sur le feu ?
Mon actualité en 2025, alors ce qui serait super, c'est que j'arrive à sortir mon premier EP. Je pense que je vais y arriver, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps et j'ai du mal à en trouver. Je suis toujours à droite, à gauche et je fais énormément de projets en même temps. Mais je vais y arriver et voilà, normalement ça sera ma plus grosse actualité de 2025, je l'annonce. Je le dis ici, comme ça maintenant je suis obligée de le faire. Et sinon, je viens dans la région en mars, début mars. Je serai le 8 mars au Petit Rex Café à Tours où je ferai un concert à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir, ça serait trop cool.
As-tu quelque chose à ajouter ?
Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est que j'espère que le combat féministe va encore avancer et que la société va avancer avec lui. Parce que c'est ça qui me fait un peu peur en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une société qui avance à deux vitesses et des gens qui vont dans l'autre sens. et j'aimerais ouvrir un dialogue avec ces gens qui vont dans l'autre sens et qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse échanger et qu'on puisse argumenter les uns avec les autres, les unes avec les autres, pour tout simplement avancer et pas reculer. Ça serait dommage.
Merci beaucoup Tania et bravo pour ton engagement. On écoute maintenant ta chanson.
Comme une maîtresse de maternelle, articulée pour que tu comprennes. Si tu savais, comme j'ai la flemme de t'éduquer pour la millième fois.
Alors écoute bien.
Je suis pas ta mère, moi. Moi, moi, fais l'enfant roi. Avant de me traiter de sorcière, viens on compare nos salaires. Blanc, si c'est hétéro, agression. Tu deviens moins fan des garçons. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'écris en inclusif, je mets plus de soutif. Je crois que je me radicalise. Je m'épile plus sous les bras, je fais des soirées flinta. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je baisse plus comme avant, je demande le consentement. Je crois que je me radicalise. Je dessine des vulves partout, je gère le barbecue. Pourquoi donner ton avis sur mon corps? Je m'aime comme je suis. Tu me dis que je suis moche, mais t'es qu'éblou sur mes brioches. J'en ai trop marre des médecins qui me disent que tout va bien. Alors je me tape la taxe rose en plus de l'endométriose. Qu'est-ce qui m'arrive? J'écris en inclusif, je mets plus de soutif. Je crois que je me radicalise. Je m'épile plus sous les bras, je fais des soirées flinta.
C'est quoi des soirées flinta?
Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je baisse plus comme avant, je demande le consentement. Je crois que je me radicalise. Je dessine des vulves partout, je gère le barbecue. Regarde cette marque sur mon épaule. Un connard qui a perdu le contrôle. Femme battue, femme marquée, ma cicatrice me fait crier. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'écris en inclusif, je mets plus de soutif. Je crois que je me radicalise. Je m'épile plus sous les bras, je fais des soirées flinta. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je baisse plus comme avant, je demande le consentement. Je crois que je me radicalise. Je dessine des vulves partout, je gère le barbecue.
Alors je suis végétarienne.
Ralâche d'être docile. J'ai le droit d'être difficile. Je veux déconstruire toute la planète à coups de punchline dans ta tête.
Et voilà, merci Tania. Et coucou Tania, parce que je sais qu'elle nous écoute. Et toi,
bonjour,
Sophie.
Tania.
Et toi, Sophie. Toi, Sophie, je lance ton jingle.
Les bonheurs de Sophie.
Les bonheurs de Sophie.
Alors oui, Émilie, donc moi, dans ma rubrique en 2025, j'ai beaucoup aimé traiter sur le sujet du droit des femmes. Donc j'ai parlé de 2 BD pour le droit des femmes et je pense que cette rubrique permet de voir à quel point il y a du progrès à faire encore une fois. Mmh. Et voilà, à bientôt et bonne année.
Bonne année.
Merci Sophie.
Bonne année.
Pour commencer ma chronique « Les bonheurs de Sophie », j'ai ciblé 2 livres qui traitent du droit des femmes. Le premier, une BD qui s'intitule « Il m'a volé ma vie » d'après le récit de Morgane Seliman aux éditions Glénat, parle de la violence physique et morale au sein du couple. Lui fait subir à sa femme des gestes ultra-violents et elle s'éteint peu à peu. Il la frappe et la viole. Elle tombe enceinte et souhaite garder l'enfant. Lui est complètement indifférent. Elle se décide à porter plainte contre son mari au bout de quelques années. Du coup, il écope de 3 mois de prison, puis liberté avec un bracelet électronique, ce qui le défend d'aller dans le même département où elle habite. Mais bon, il finit par être débarrassé de ce bracelet, la retrouve et recommence à la harceler. Elle reporte plainte et il s'en sort encore. Elle fuit donc dans un petit village en Normandie avec son enfant. Elle se sent libre, mais pas sereine. Nous voyons avec cette histoire que les femmes peuvent subissent parfois les tortures de leur mari. Ce n'est pas de l'amour, mais plutôt de la haine. Alors, où s'adresser si vous êtes concernée par cette situation? Solidarité Femmes au 3919, la Maison des Femmes, ou alors le site internet arrêtonslesviolences.gouv.fr. Le deuxième livre que j'ai choisi est aussi une BD, plus légère que la précédente, qui traite aussi du droit des femmes. En effet, dans différents milieux sociaux, celles-ci sont encore victimes de comportements sexistes de la part des hommes. Donc cette BD qui s'intitule « Il est où le patron ?» de Maude Bénézit, dessinatrice autodidacte aux éditions Marabule, qui a eu le soutien de 5 femmes travaillant dans le monde rural pour raconter le quotidien de différents personnages féminins qui exercent leur métier dans la paysannerie. Cet ouvrage met en avant la lutte féministe dans le milieu de la ferme. Et il y a du travail pour faire évoluer les mentalités. En effet, les femmes agricultrices subissent des réactions parfois étranges de la part des habitants du village. « Vous n'êtes pas trop maigre pour porter ces caisses ? Je voudrais voir le patron, votre mari. Mais je suis aussi la patronne. » Autre exemple, un homme prend la grosse tête en disant à son épouse qu'il répare le tracteur, qu'il coupe du bois. Comme Charles Ingalls, hé 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 ! Et que sa femme ne fait que les fromages et les marchés. Mais celle-ci s'occupe aussi des enfants, fait la compta, fait les menus, les courses, fait les soins aux brebis, etc. Et j'en passe. Aujourd'hui, près de 30% des exploitations et des entreprises agricoles sont exploitées ou co-exploitées par au moins une femme. Les femmes peuvent exercer tous les métiers aujourd'hui. Boucher, agriculteur, chef d'entreprise, pompier. Avec humour et engagement, cette BD se lit très bien et encourage les mentalités à faire valoir l'égalité des femmes face aux hommes. Bien sûr, il y a des discours à modifier à la société et je vous invite donc, messieurs, à lire ce livre qui vous est adressé également. Voilà donc ma première chronique « Les bonheurs de Sophie » terminée. Et je vous retrouve très vite. Salut, salut.
Et toi, James, alors tu vas nous parler de qui ? Attends, je vais te lancer ton jingle quand même, parce que c'est bien, on aime bien les jingles, nous. Et après, tu nous expliques ce que tu as choisi.
Bienvenue sur la tête de ton réseau.
Sur la tête de ton réseau. Eh bien, bonjour, messieurs, dames. Alors, en direct, c'est James. C'est bien moi ? Bah confirmez-moi parce que
oui c'est oui bien oui. Toi. Oui bonjour James. Voilà. Bonjour bonjour bonjour. Merci.
A priori c'est toi.
Oui oui oui.
Voilà. Alors pour le coup de cœur en fait, il y en a pas particulièrement parce que tous les invités qui ont été en direct, ils ont été super génial, parlent avec le cœur, l'esprit, le vrai combat quoi de l'humain à l'humain. Ça c'est vous l'avez déjà entendu. Et comment ça s'appelle ? Et en fait, j'étais particulièrement moi perso touché par Carude, Ophélie,
VRS,
ouais, Ophélie, ouais, VRS, ouais. Voilà, vers un réseau de soins, et tout particulièrement par les gens en fait, socialement vraiment dans le très très bas, et pour leur dire qu'en fait, bah, il y a des gens réels qui sont là pour t'aider, et, ouais, même si c'est pas évident, et ben on est là et on lâchera pas l'affaire, et faut que tu saches qu'on sera là et on va relancer encore plein de choses. Cette année, à ce niveau-là, je pense. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous tous, à vous toutes, de tout âge, de tout sexe, de toute nationalité, de toute religion. Une très, 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 très jolie année 2026.
Merci, James.
Merci, James. Bonne année à toi.
Bienvenue sur la tête de ton réseau.
Sur la tête de ton réseau. Eh bien, bonjour Ophélie.
Bonjour James, merci pour l'invitation.
Eh bien, avant tout, je te remercie d'avoir accepté de nous rencontrer. Donc, pour la première question, si tu veux bien, peux-tu nous présenter ton association ?
Oui, bien sûr. Du coup, moi, je travaille dans un CARUD, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. C'est un établissement qui se situe à Blois et qui accueille des personnes sans rendez-vous pour diverses choses. On peut les accueillir pour qu'ils viennent prendre une douche, faire une machine à laver, se restaurer un petit peu, rien que se poser, discuter, Et on peut aussi proposer de la délivrance de matériel pour qu'ils puissent consommer en évitant tous les risques de transmission de maladies.
Merci. Quelle est ta mission au sein de Carud?
Alors, donc, il y en a plusieurs. Donc, la principale, c'est l'accueil collectif. On a aussi des temps d'accueil individuel où on accompagne les personnes dans leur démarche. Donc, c'est très global. Hein. Ça peut être pour trouver un hébergement, recourir aux droits communs, en fait. Donc, refaire une carte d'identité, une carte vitale, rouvrir leurs droits RSA. C'est vraiment hyper varié. En fait, nous, on s'adapte vraiment à la personne, là où elle en est, quand elle arrive, en fonction de ses besoins. Et nous, on s'adapte. Ça peut être en termes de soins aussi, de la réorientation, de l'accompagnement physique. Voilà, on s'adapte vraiment. On a aussi, donc ça, c'est au sein du local. On a aussi des missions extérieures, notamment l'Aller Vert. Donc, on a une équipe mobile santé précarité. C'est une éducatrice qui intervient avec une éducatrice du CIS et une infirmière d'ONS. Et en fait, elles font des tournées de rue pour aller à la rencontre de personnes, donc essentiellement sur Blois, qui sont éloignées du droit commun. Et donc voilà, pour faire un premier lien et potentiellement pouvoir réorienter.
Eh bien justement, j'aurais voulu savoir quelles sont les personnes que tu accompagnes.
Du coup, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes usagères de drogue, parce que c'est le prérequis, on va dire, pour les accueillir dans notre structure. Néanmoins, ce ne sont pas que des personnes usagères de drogue, mais elles peuvent avoir divers horizons. C'est des personnes qui peuvent venir juste pour prendre du matériel, et puis il y a des personnes qui sont plutôt en situation de précarité et qui nécessitent potentiellement un petit accompagnement un peu plus régulier. En majorité, c'est ça. Ce ne sont que des personnes majeures. On ne peut pas accompagner de personnes mineures. Tout à chacun peut venir nous rencontrer.
Merci. Qu'est-ce qui te motive dans ta profession?
Alors moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le rapport humain. En fait, dans tout ce côté brut et authentique, en fait, vraiment, ce rapport hyper... on est à côté. En fait, jamais, en tant que professionnel, moi, je me placerai au-dessus parce que j'ai un diplôme ou quoi. C'est vraiment... cet échange, en fait, on se nourrit. Nous, OK, on a une formation, on se forme sur l'addicto, ce que c'est que tel ou tel produit, tel ou tel matériel, mais en fait, on serait rien sans les personnes qui viennent nous voir. Et c'est vraiment ça que j'aime, c'est vraiment cette richesse dans les échanges humains, quoi.
Voilà. L'humain, en fait.
Ouais.
C'est ça?
Ah ouais, carrément, ouais.
Imaginons que Carud aurait un budget illimité. Feriez-vous autrement?
Je pense qu'on est bien quand même, malgré toutes les politiques actuelles, on est quand même vachement bien dans notre association. Opelia VRS, c'est une association, nationale, donc avec pas mal de structures en France. Si on avait un budget limité, moi je créerais des hébergements pour qu'il n'y ait plus de personnes à la rue, parce que c'est juste insupportable en fait.
L'humain, encore une fois.
Bah ouais.
Génial. Bah ouais. Comment peut-on vous joindre, en fait?
L'adresse,
un email?
Alors, oui, il y a, on a un petit site internet. Je ne suis pas sûre qu'il soit hyper actualisé, mais en tout cas, il y a toutes les informations. Il y a un numéro de fixe où c'est notre secrétaire qui est responsable du XAPA. Donc, c'est le centre de soins juste à côté. Et nous, donc elle peut nous envoyer les demandes. On a des numéros de téléphone professionnels, en fait, donc ça, on peut les transmettre assez rapidement, et on a aussi une adresse mail, en effet, ouais.
Eh bien, gros big up à toi, Ophélie. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci.
Merci beaucoup.
Alors, merci. Laurent n'est pas avec nous aujourd'hui, le jour où on enregistre, mais du coup, on a discuté un peu avec lui pour savoir quelle était la rubrique qui lui avait le plus parlé. Et l'interview qu'il avait faite, qu'il avait le plus envie de réécouter. Et donc, il nous a dit qu'il vous souhaitait réécouter le docteur Briand, vous vous souvenez?
Oui, l'addictologue.
Voilà, c'est ça. L'addictologue de Vendôme, qui nous avait parlé pendant l'émission des addictions.
Ouais. Addictions.
Super intéressant. D'ailleurs, on avait appris que les addictions, des fois, étaient un peu plus surprenantes que d'autres, notamment l'addiction au chocolat, vous vous souvenez?
C'est fou.
Ouais.
Les addictions, c'est fou.
C'est ça. Et du coup, il était très, très gentil, très bienveillant, ce docteur, et on était très contents de le rencontrer. On ne sait pas s'il nous réécoute, mais bonne année, docteur.
Ouais, bonne année, docteur.
Alors, du coup, bah, j'en profite aussi au nom de Laurent pour remercier tous les gens qui sont venus, j'allais dire les experts. Alors,
ouais,
avec des fois des guillemets.
Les professionnels. Quoi.
Les professionnels des sujets qu'on a abordés. Et parce que, du coup, à chaque fois, ils ont été hyper disponibles et aussi, ils ont su rendre. Le discours assez accessible pour que tout le monde puisse comprendre sans parler avec des mots trop compliqués, mais sans. Ouais, voilà, pour que tout. L'idée, c'est de toute façon.
D'avoir un dico pour
ouais, l'information. Ouais.
L'idée accessible. De poster à tête, de toute façon, c'était ça. Hein, c'était de parler de santé mentale de façon accessible à tous. Donc, de la part de Laurent, merci. Alors, du coup, on écoute. Il va falloir qu'on fasse un jingle à Laurent quand même un jour, hein, parce que le pauvre, il est le seul à avoir de jingle.
Eh bien, mission. Voilà. Bonne résolution voilà. 26.
Laisse faire l'expert.
À toi, tonton.
C'est parti, on écoute le docteur Briand.
Bonjour, docteur Briand.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'est une addiction ? À partir de quel moment est-on addict ? Par exemple, si je fume un joint de temps en temps, suis-je addict ?
Alors, c'est la question clé, c'est une excellente question. Et j'ai pas de réponse. De réponse formelle, une réponse scientifique, claire, etc. Il y a plein de définitions de l'addiction. Donc je vais vous donner la mienne, celle que moi j'utilise un peu pour voir s'il y a lieu ou pas d'aider un patient ou en tout cas de l'accompagner. Pour moi, l'addiction, elle commence dès lors qu'il y a une souffrance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une plainte de mon patient. Si la personne ne souffre pas des choses, pour moi, on n'est pas dans le cadre de l'addiction. Donc il faut qu'il y ait une souffrance en lien avec la perte de contrôle de la consommation d'un produit ou d'un comportement quel qu'il soit. En gros, moi je vois des patients des fois qui me sont adressés par le juge, un peu en obligation de soins, et qui vont consommer par exemple, pour parler de l'alcool, des quantités qui paraissent énormes, mais ils viennent me voir avec aucune plainte en me disant « moi j'ai rien à faire ici, ça me va comme ça ». J'aurais tendance à dire que bah, on n'est pas forcément dans de l'addiction parce que qui je suis moi pour lui dire c'est pas ça qu'il faut faire. Et... Par contre, j'ai des fois des gens qui consomment, toujours sur l'alcool, 3 verres un soir dans la semaine et qui vont venir me voir parce que toute la semaine ils pensent qu'à ce soir-là en se disant la semaine prochaine je ne bois qu'un verre, puis ils n'arrivent pas à s'arrêter et du coup ils viennent me voir parce qu'ils en souffrent, parce qu'ils perdent le contrôle. Donc là, je considère qu'on est dans l'addiction. Donc vraiment, c'est ça, c'est. La souffrance en lien avec la perte de contrôle d'un produit ou d'une consommation.
D'accord.
Donc du coup, si je fume un joint de temps en temps, est-ce que je suis addict ? Si ça m'embête parce que j'ai envie d'être à zéro et que de temps en temps, je perds le contrôle, j'arrive pas à m'empêcher, je fume et ça m'embête, je dirais que oui, vous êtes addict. Si ça vous va bien comme ça, j'aurais tendance à dire que non.
D'accord. Alors comment aider un proche qui a une addiction ?
Alors c'est très complexe. Je vais vous dire un petit peu comment nous, en consultation d'addictologie, en tant que professionnels, on fait. Et du coup, il y aura un parallèle avec ce que je conseille aux proches de faire. En gros, quand on voit un patient dans son processus d'addiction, il y a différentes phases de motivation au changement qui sont très importantes. Et il y a des phases où il n'y a absolument aucune intention de changer. Ce qu'on appelle la phase de pré-contemplation, en gros, c'est mon patient, peut-être qu'il va à un moment donné en souffrir, mais là, à l'heure actuelle, il ne souffre pas, comme je vous disais juste avant. Et dans ces cas-là, la phase de pré-contemplation, on essaie de surtout pas braquer les gens, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne vais pas être lourd, je vais pas lui dire c'est mal, il ne faut pas faire ça.
Vous ne jugez pas.
Exactement. Et c'est ce que je conseille aux proches de faire, c'est si votre conjoint, votre parent, votre enfant, il ne voit aucun problème, il ne veut pas changer. Dites-lui simplement que vous êtes là pour lui, que vous êtes inquiet pour lui, que vous connaissez éventuellement tel ou tel médecin ou tel professionnel de santé, quel qu'il soit, ou quelqu'un pour en parler, que vous aimeriez bien qu'il y aille, mais il ne faut pas aller plus loin parce que quand on commence à y aller en force, c'est là où on braque les gens. Et dans le processus de motivation au changement, il y a un moment donné dans la vie de la personne où là, elle va avoir envie de changer, ou elle va commencer à se poser la question de changer son comportement. Et si à l'époque où elle n'était pas du tout dans cette démarche-là, moi je l'ai braquée, c'est sûr qu'elle ne viendra pas toquer à ma porte, parce que je l'ai saoulée à l'époque. Donc le seul moyen de laisser la porte ouverte, c'est de lui dire, bah écoutez, donc moi en tant que professionnel, je vais lui dire un peu des choses scientifiques, voilà, vous savez que pour la santé, il vaut mieux boire moins, fumer moins, etc., etc. J'entends bien que là, vous ne voulez rien faire d'autre, n'hésitez pas à revenir le jour où ça ne vous convient plus. Et du coup, les proches, je leur dis de faire un peu la même chose, de dire, je suis là, je suis inquiet pour toi, et moi j'aimerais que tu consultes, mais... mais pas aller plus loin que ça. Alors c'est extrêmement facile à dire pour un professionnel de santé de son côté du bureau, face à la famille, aux patients, etc. C'est très compliqué quand il y a de l'affect et qu'on voit son proche qui va pas bien. Je dis que c'est ce que je conseille de faire, je dis pas que c'est facile à faire.
Est-ce que tout le monde peut aller voir un addictologue ?
Alors oui, tout le monde peut consulter un addictologue. Nous, en l'occurrence, sur le Vendômois, il y a plusieurs associations et puis il y a l'hôpital de Vendôme. Il y a juste à appeler le secrétariat des urgences de Vendôme qui gère mon planning, en sachant qu'on a des gros délais maintenant. Alors il n'y a pas forcément besoin de passer par son généraliste pour consulter, on peut prendre rendez-vous directement. Moi, j'aime bien quand le généraliste m'adresse les patients parce que j'ai en général un petit courrier d'adressage avec les antécédents, les traitements, etc. Mais ce n'est pas indispensable.
Rencontrez-vous des addictions insolites ?
Alors oui, parfois on rencontre des addictions insolites. Moi, le plus gros de ma consultation est fait de choses un peu classiques. Alors beaucoup d'alcool, de tabac, de l'héroïne énormément aussi, un peu de cocaïne. Mais c'est vrai que parfois il existe des addictions un petit peu insolites. Pour en citer une qui m'a marqué pendant mes quelques années d'activité ici, il y a une patiente qui est venue me voir pour une addiction au chocolat. Alors, sur le coup, quand on voit sur son planning addiction au chocolat, on se pose la question, est-ce qu'on va être sur une vraie addiction ou quelqu'un qui en plaisante ? Ouais, voilà. Et effectivement, ouais, avec son histoire de vie, etc., ouais, on était vraiment sur une vraie addiction avec un quotidien qui ne tournait que autour de ça, des techniques mises en œuvre pour pouvoir en manger encore plus sans être écœuré, avec des techniques avec des bonbons à la menthe, etc. etc. Et c'est vrai que tout ne tournait que autour de ça. Donc, comme je vous avais dit sur la définition de l'addiction, il y avait une vraie perte de contrôle de sa consommation de chocolat qui devenait obsédante, qui prenait une place énorme et qui lui gâchait la vie, quoi. Donc, une vraie addiction au chocolat, quoi.
D'accord. Bon, eh bien, docteur Briand, merci d'avoir accepté l'interview et je vous souhaite bonne continuation.
Merci à vous, bonne continuation à vous.
Merci.
Et donc, merci à tous pour ce magnifique best-of qui nous lance bien dans cette année 2026.
Avec la patate et tout.
Ouais. Oui,
voilà.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tout le monde pour 2026 ?
La santé. Une super belle année. La santé, bonheur.
Joie, bonheur.
La paix.
Plein de
amour.
Joies, la paix avec vous-même aussi.
Voilà. Et trouver de l'écoute aussi.
Il faut savoir que s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème.
Il faut savoir parler.
Oh. Mais sache qu'il y a toujours...
Ouh là là.
T'as ton CAP, toi.
Tu me le dis. Tu vas trouver.
Et ouais, voilà. Et puis, que tu lâches rien, parce qu'il faut que tu saches que... Bah voilà, quoi. Il y a des gens qui sont là et qui continuent. Et voilà.
Ouais. Et puis nous on va continuer avec Pose ta tête au moins jusqu'au mois de juin, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la saison de radio.
Trop bien.
On a des bons petits sujets dans la besace pour le reste de l'année, vous allez voir, avec, comme disait Félix, l'idée d'être à l'écoute aussi. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas
Félix,
à nous les transmettre.
Félix, il en a pas, en fait, mais il veut pas balancer.
Je redonne l'adresse mail si jamais vous avez envie de nous contacter pour des idées, des retours, des observations, des conseils, des compliments, on aime bien, des bonnes résolutions. Écrivez-nous donc à gem41@alve.fr. Et puis on se retrouve le mois prochain, donc avec nos bonnes résolutions qu'on aura déjà pas tenues.
Voilà, avec nos probablement. Feux,
voilà.
On va arriver en rampant dans le studio.
C'est ça.
Mais ça, vous ne le verrez pas de toute façon. Mais je vous raconterai tout, promis.
On se crède.
Donc, tous les lundis, toujours à 13h sur Studio Zef. Attention, interrogation surprise, la fréquence de Studio Zef à Vendôme.
91.7 à Vendôme.
Et à Blois.
Et 91.1 à Blois.
Bravo.
Excellent.
Et
en podcast sur le site
studiozef.fr.
On est professionnel ou on ne l'est pas.
Ah, la classe.
Affichez-vous de moi.
Sophie,
youpi.
Et bravo à tous et merci beaucoup et bonne année.
Bonne année. À bientôt.
Bonne année.
On vous aime.
Pas mal, je crois.
Ouais.
Pose ta tête.
Pose ta tête. L'émission qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête. C'est l'émission.
Pose ta tête. Laisse passer la lumière. Qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête.
Pose ta tête. C'est l'émission qui laisse passer.